Allons acclamer l'Éternel. Lançons une joyeuse clameur vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui pour le célébrer. Avec des psaumes, lançons vers lui une joyeuse clameur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel qui nous a fait. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. C'est avec ces paroles tirées du psaume 95 que je vous souhaite la bienvenue à l'église évangélique de Mérin. Bienvenue à Philippe de la Fuente qui nous apportera le message. Il est venu aujourd'hui avec sa marraine qui habite tout près. Il est pasteur à l'église du CEP à Prefsin, où notre pasteur Philippe Anchaud prêche ce matin. Bienvenue aux personnes qui nous suivent à distance. Je vous propose d'éteindre ou d'éloigner tout ce qui pourrait vous distraire et de prendre ce temps pour entrer dans la présence du Seigneur. Pendant ce culte, nous aurons le plaisir d'entendre quelques chants dont les paroles seront projetées à l'écran. À ce jour, il nous est toujours demandé de ne pas chanter dans cette salle, même avec les masques. Par contre, nous pouvons nous imprégner des paroles en les écoutant les yeux fermés et en louant Dieu dans le silence de nos cœurs. Souvent, j'imagine comme ce doit être difficile pour les chrétiens dans les pays persécutés, où ils n'ont pas même le droit de se réunir. Alors ne restons pas focalisés sur le fait de ne pas pouvoir chanter pendant une heure, mais remercions Dieu pour la liberté que nous avons de pouvoir nous rassembler pour écouter sa parole, le prier, nous encourager les uns les autres. Je vous invite à prier. Père Céleste, merci pour le privilège de pouvoir nous réunir ce matin pour te rencontrer et louer ton nom. J'aimerais te remettre tes enfants persécutés pour leur foi. Rejoins-les là où ils se trouvent et fais-leur ressentir ta présence. Entends le cri de leur cœur. Merci pour notre communauté. Merci pour les enfants qui peuvent se réunir à la chapelle à côté. Veuille bénir les moniteurs dans leur enseignement. Que la foi des enfants s'enracine chaque jour un peu plus. Je te remets aussi les parents. Aide-les à leur transmettre tes valeurs et à tenir ferme dans leur foi. Nous t'apportons aussi le groupe de jeunes. Merci de les guider, de les inspirer. Renouvelle leur force, bénis leurs rencontres. Fais souffler ton esprit sur eux. Seigneur, nous voulons tout spécialement te présenter devant ton trône de grâce la famille Albisser qui passe par des moments difficiles. Nous te prions de renouveler les forces de Denise, d'être auprès de Werner, que ta paix qui surpasse tout entendement descende sur cette famille. Veuille guider aussi les médecins pour soigner Werner. Seigneur, nous savons que tu as tout sous contrôle. Et comme il est dit dans les psaumes, nous voulons nous arrêter et reconnaître que tu es Dieu, que tu domines sur les nations et sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. J'ai une pensée tout spéciale pour les aînés qui ne peuvent plus venir au culte depuis à peu près un an. Et je voulais leur faire un petit clin d'œil avec le chant suivant.
jour à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi.
Je me faisais la réflexion récemment que nous, chrétiens, sommes comme à l'image du bénévole dans une moisson. Je vous laisse imaginer un grand champ et puis une maison sur le bord du champ. Et nous avons un maître, Dieu, qui nous laisse libres dans ce travail. Certains travaillent beaucoup sans prendre de pause. D'autres, au contraire, prennent beaucoup de pauses et travaillent peu. Et certains trouvent un équilibre entre les deux. Et en tant qu'ouvriers, nous sommes tous nourris, logés, blanchis. Nourris par la parole de Dieu, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Logés, car celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et blanchis, car ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et dans cette moisson, nous ne sommes pas des esclaves, car Christ nous a libérés, affranchis. En fait, c'est même mieux, nous sommes enfants de Dieu, et nous avons notre place dans sa maison. Et c'est ce que dit le chant prochain. « En toi, je sais qui je suis. »
Thank you.
Comme je l'ai dit au début du culte, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe de la Fuente pour la prédication que je souhaite vous présenter en quelques mots. Pour la petite anecdote, Philippe et moi faisions partie du même groupe de jeunes quand on était adolescents et ça fait une trentaine d'années qu'on ne s'était pas revus. En effet, il a quitté la Suisse en 1996 pour le Québec, il lui reste un tout petit accent, où il a fait une école biblique et puis il a été pasteur là-bas pendant 20 ans. Il habite maintenant en France voisine et il est pasteur à l'église du CEP à Prèvesaint depuis 2018. Il est marié à Marie-Ève et ils ont deux enfants, une fille de 19 ans et un garçon de 15 ans. Philippe, tu veux bien venir, je vais prier pour toi. On va prier pour Philippe pour la prédication. Père Céleste, je te demande de bénir Philippe. Merci de parler à nos cœurs au travers du message qu'il va nous apporter. Que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre. Amen.
Merci beaucoup, Prisca. Effectivement, ça fait 30 ans à peu près. Les temps changent. Ou les gens changent, on devrait dire. Comment allez-vous aujourd'hui? Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à chacun, chacune d'entre vous. Je pense aussi à tous ceux et toutes celles qui sont derrière les écrans, peut-être dans les EMS ou ailleurs. Sachez que nous sommes unis en esprit, les uns avec les autres. Et c'est une joie d'être là avec vous aujourd'hui. J'aime beaucoup votre pasteur. Ça fait pasteur Philippe Anchaud, votre pasteur est un habitué de l'église du CEP. Pour ma part, c'est la première fois que je viens parmi vous. Donc encore une fois, merci pour votre invitation. Merci au conseil d'administration aussi et votre accueil. Je suis venu avec ma marraine, Michel, qui habite à quelques minutes d'ici, à 2 minutes d'ici. Donc c'est une joie de pouvoir aussi être accompagné par un visage que je connais. Il y a 2-3 visages que je connais ici. Donc voilà, on va faire connaissance tranquillement. C'est ma première aujourd'hui. Il y a une ou deux personnes qui m'ont dit « on se réjouit vraiment ». Du message et de ce que nous allons entendre ce matin. Et ma réponse était, ben, j'espère que vous allez ressortir autant réjouis que ce que vous êtes entrés. Donc, je prie que le Seigneur puisse faire en sorte qu'on puisse quitter ce lieu en étant vraiment réjouis de ce qu'il a pu nous dire à travers toutes mes imperfections. Malgré toute mon humanité, je prie que le Seigneur puisse parler à nos cœurs ce matin. J'aimerais nous inviter non pas à faire un face-à-face avec Dieu, comme souvent on est invité à « Seigneur, je veux voir ta face, je veux voir ta présence, etc., je veux voir ton visage ». J'aimerais à l'inverse nous inviter à contempler le dos de Dieu, qui est le titre de ce message ce matin, « Le dos de Dieu ». Quelle drôle d'idée de regarder le dos de Dieu. Il me semble que c'est plus judicieux de vouloir voir sa face. La plupart d'entre nous, eh bien, on a soif de voir la face de Dieu. Eh bien, ce matin, on va s'arrêter quelques instants pour regarder le dos de Dieu. Mais j'essaye d'imaginer, en arrivant ici, alors que je m'apprêtais à vous présenter ce message, et que c'est la première fois qu'on se voit, pour la plupart d'entre nous, j'imaginais monter de dos, et au lieu de me présenter à vous, voilà, je vous présente Philippe de la Fuente, etc., blablabla. Et que pendant les 30 minutes qui suivent, la seule chose que vous voyez de moi, c'est mon dos. Dans cette première rencontre. Je sais pas, il me semble que ça serait pas très agréable, autant pour ceux qui sont en caméra que ceux qui sont en présentiel. Imagine une autre scène. La mariée, gravit les marches du temple. Elle franchit la porte. La musique démarre. Tous ses invités sont là. Tous ses invités ont le regard tourné vers la mariée. Et d'un pas lent, mais assuré, elle monte l'allée centrale. Elle remonte l'allée centrale. En se dirigeant vers son bien-aimé, son futur époux. Et voilà que, au lieu de voir son bien-aimé lui faire face, la regarder, l'admirer, contempler sa dulcinée, voilà que son bien-aimé lui tourne le dos. Il me semble que ça jetterait un froid. Alors que tous les invités regardent la mariée rentrer, le principal concerné lui tourne le dos. Aujourd'hui, J'aimerais te parler d'un homme qui a vécu une expérience à quelque chose près similaire, où la seule chose qu'il a eu le droit de voir de la part de Dieu, c'est son divin dos. Alors oui, on pourrait dire, ça reste que c'est quand même le dos de Dieu, c'est un dos qui est divin. Oui, mais ça reste un dos quand même. Exode chapitre 33, je vais paraphraser les 11 premiers versets pour nous mettre en contexte, parce que nous allons rentrer dans un dialogue, un texte que vous connaissez très bien, Exode 33. Donc avant d'afficher à l'écran, avant de rentrer dans le dialogue, je vais simplement vous paraphraser les 12 premiers versets pour qu'on puisse bien comprendre qu'est-ce qui se passe avant d'assister au dialogue qui se passe entre Moïse et Dieu. Et Exode 33, les premiers versets, dès le départ de ce chapitre-là, on voit que l'Éternel va dire à Moïse, quitte ce lieu et va dans le pays que je t'ai promis, rentre dans le pays que je t'ai promis. Et il va dire, je vais envoyer un ange devant toi qui va t'ouvrir la marche, etc., qui va abattre tous tes ennemis, je paraphrase. Il va vous conduire dans ce pays et il va rajouter, mais moi, je n'irai pas au milieu de vous. Je n'irai pas avec vous parce que vous êtes un peuple rebelle, un peuple méchant, etc. Et lorsque le peuple va entendre ça, que Dieu ne les accompagnera pas, ils vont porter le deuil, ils vont se lamenter. Là, ils réalisent quelque chose qui se passe. Il y a un décalage entre eux et Dieu. Et effectivement, l'Éternel leur a dit, vous êtes un peuple rebelle. Et si je marchais au milieu de vous, ne serait-ce qu'un instant, je vous exterminerais. Tellement que vous êtes rebelles, méchants. Et là, il les invite vraiment à se dépouiller de leur parure. Il dit, je vais regarder ce que je vais faire. Et il continue. Et Moïse, lui, va avoir une réaction. Il va prendre la tente qui est au centre du peuple et va l'amener à l'extérieur du peuple. Et là, on a déjà quelque chose. Il y a comme pas une préfiguration, mais un semblant d'un divorce entre Dieu et son peuple, d'une certaine façon. Parce que la tente de la rencontre, c'est le lieu où Dieu rencontre son peuple. Et là, ce lieu-là n'est plus au milieu du peuple. Moïse défait la tente, il va à l'extérieur. Il y a déjà là une séparation et il va prendre un temps avec Dieu. Et au verset 11, on voit qu'on nous dit que Dieu va s'entretenir avec Moïse directement comme un homme parle avec son ami. Donc, ça commence comme ça. Vas-y, Moïse, dans la terre que j'ai promis à tes ancêtres, je vais envoyer un ange devant toi. Moi, je n'irai pas. Le peuple entend la nouvelle, se lamente, Moïse prend la tente, se sépare, et là commence à avoir un dialogue avec Dieu, en dehors du peuple. Et c'est ce dialogue-là que nous allons regarder ensemble. Ils vont se parler comme deux amis se parlent. Exode 33, verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Écoute, tu me demandes de conduire ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras pour m'accompagner. Pourtant, tu m'avais dit, je t'ai choisi personnellement et tu jouis de ma faveur. » Verset 13, première requête de Moïse. Eh bien, si réellement j'ai obtenu ta faveur, veuille me révéler tes intentions et fais-toi connaître à moi, alors j'aurai vraiment ta faveur. Puis, considère aussi que cette nation-là, c'est ton peuple. Moïse est en train de dire, si vraiment tu es avec moi, la plus belle marque de ta faveur sur ma vie, c'est que tu sois avec moi. Ce verset 13, pour moi, a été en début d'année le fil conducteur pour ma vie en tant qu'homme, en tant qu'individu, en tant que père, en tant que pasteur. Cette requête-là, cette requête où Moïse va dire, fais-moi connaître tes intentions. Fais-toi connaître à moi. Avant d'aller plus loin, nous avons là une excellente requête. Plutôt que de présenter ses projets, plutôt que d'être préoccupé à savoir en quoi consistera son prochain périple, son voyage, pour nous aujourd'hui, plutôt que d'être préoccupé par quels seront les prochains accords ou non en termes d'écologie, d'économie, de politique, d'éducation, etc. Moïse, il a un désir, avant de présenter ses projets à lui, ses préoccupations à lui, Moïse est en train de dire à Dieu, fais-toi connaître à moi, fais-moi connaître tes intentions. Moïse a un désir ardent, ardent de connaître les intentions de Dieu plus que tout. Il aspire à ce que Dieu se fasse connaître à lui. Et c'est pour ça que je dis que c'est là une excellente requête. C'est la requête des requêtes qui devrait nous animer jour après jour, qui devrait idéalement démarrer les premières heures de notre journée. Seigneur, fais-toi connaître à moi. texte que j'ai reçu au début de l'année pour ma vie en tant que personne, en tant que pasteur. Et j'aimerais m'adresser quelques instants aux pasteurs qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont là aujourd'hui, aux pasteurs, aux comités d'administration, aux leaders, aux responsables, à moi-même qui vous prêche. J'aimerais adresser ces paroles. Nous avons là un exemple à suivre. Pasteur, comité d'église, enseignants, enseignantes, monitrices des enfants, tous ceux et celles qui ont un rôle d'apporter un message à un groupe de personnes, que ce soit dans le contexte de jeunesse en mission, d'un dimanche matin ou d'une jeunesse, eh bien nous avons là un excellent exemple à suivre. Pourquoi est-ce que je m'adresse à vous? Parce que nous qui sommes appelés à souvent, la plupart du temps, durant l'année, à communiquer une parole de Dieu toujours pour les autres, toujours pour l'église, toujours pour les groupes, le groupe qui est en face de nous, toujours pour l'auditoire qui est devant nous, le petit groupe de maison qui est là, je nous invite, pasteurs et responsables, à nous laisser interpeller par les intentions de Dieu. Et je vais aller plus loin, que cette parole de Dieu, que la parole de Dieu, non seulement nous interpelle, mais qu'elle nous confronte, nous, premièrement, avant de nous présenter devant d'autres personnes, devant nos frères et sœurs, pour apporter ce que Dieu a déposé sur notre cœur. Notre attitude ne doit pas être de rechercher à agir en fonction de nos expériences, de notre logique humaine ou ce que nous pensons, de ce que l'Assemblée aurait besoin ou voudrait entendre besoin. Oui, aurez-vous ne pas se laisser influencer par les circonstances extérieures, mais nous laisser influencer par les intentions mêmes de Dieu aujourd'hui, à l'heure du jour. Qu'est-ce que Dieu veut dire à ma vie aujourd'hui? Et qu'est-ce que je suis appelé à communiquer? C'est là le cœur de Moïse. Et on devrait commencer, je nous appelle à commencer par cette prière, nous adresser à Dieu. Seigneur, fais-toi connaître à moi. Fais-moi connaître tes intentions. Ce principe est valable si tu es cadre dans une entreprise, célibataire, grand-papa, grand-maman, sans emploi. La requête est valable. Seigneur, fais-toi connaître à moi. Fais-moi connaître tes intentions. Dans une génération, pour ceux qui sont un petit peu sur les réseaux, dans une génération où tout le monde donne son avis sur Facebook, Instagram et j'en passe, dans une génération où tout le monde a quelque chose à dire sur tout, commençons par savoir connaître l'avis de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à nous dire? Encore une fois, pour ceux qui sont sur les réseaux, dans une génération où tout le monde cherche à être un influenceur, eh bien, cherchons premièrement à nous laisser influencer par le Seigneur Dieu de toutes choses. Maintenant, on continue. On continue dans ce dialogue-là. Au verset 14, Dieu va répondre. Dieu répondit. OK, ça c'est moi qui rajoute. Hein. OK, je marcherai. Parce que c'est quand même beau. Il s'est quand même dit, l'Éternel parla avec Moïse comme deux amis entre eux. Alors, je ne crois pas qu'il y avait une familiarité déplacée, mais il y a quand même une liberté, il y a un échange. C'est comme deux amis qui parlent ensemble, cœur à cœur. Et Dieu répondit, « OK, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai une existence paisible. » Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il dit « je marcherai moi-même », c'est « ma face marchera pour toi » dans la Bible annotée. Et on le retrouve ailleurs. En fait, il est en train de dire, Il fait allusion, mais mon ange va y aller, un représentant va y aller. D'ailleurs, on va voir plus tard que c'est ce que Moïse comprend, c'est qu'il dit « je marcherai moi-même avec moi », mais c'est Dieu va déléguer quelqu'un pour marcher avec lui, mais Moïse va quand même insister, on va le voir. Donc, « je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai une existence paisible ». Deuxième requête de Moïse, Moïse enchaîne, il s'échange, verset 15, Moïse reprit. « Si tu ne viens pas toi-même avec nous », il précise, « si tu ne viens pas toi-même en personne, en chair et en os », façon de parler, avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. Moïse ne se contentait pas d'avoir l'ange de l'Éternel avec lui, à ses côtés. Il voulait rien de moins que la véritable présence de Dieu avec lui, ni plus ni moins. Moi, je ne sais pas pour vous, mais dans un projet, si Dieu me dit, mon ange t'accompagne, yes, hey, quand même, l'ange de l'Éternel m'accompagne dans les projets. Dans mon agenda, oh yes, il me semble même que je mettrais ça sur Instagram, oh la story du jour, hey, l'ange de l'Éternel m'accompagne dans ce projet que j'avais depuis des années. Non, Moïse, il dit, c'est pas assez, c'est super, mais c'est pas assez. Moi, ce que je veux, c'est toi, Seigneur. Je ne sais pas les décisions dans lesquelles vous vous trouvez dans votre vie, déménagement, mariage, peut-être décision de rentrer dans une maison de retraite, changer d'emploi. Seigneur, accompagne-moi. Moïse dira, je ne veux pas juste un OK, je veux l'assurance de ta propre présence. C'est ce que Moïse est en train de demander. On arrive au dos de Dieu tranquillement, mais pas tout de suite. Exode 33, verset 16, il continue. « À quoi reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur pour moi et pour ton peuple? Sinon, si tu marches avec nous, et si nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples sur la terre, comment est-ce qu'on va nous reconnaître? Comment est-ce qu'on va nous distinguer si toi-même tu ne te promènes pas, tu ne marches pas avec nous? » Moïse ne se contente pas du fruit. Moïse veut le donateur. Moïse ne veut pas juste la bénédiction de Dieu. Il veut le Dieu de la bénédiction. C'est le cœur de Moïse. Et deuxième réponse, cette fois-ci de Dieu, verset 17. « Alors l'Éternel répondit à Moïse, « Parce que tu jouis de ma faveur et que je t'ai choisi personnellement, je t'accorde aussi ce que tu viens de me demander. » Voyez-vous, donc, Dieu n'avait pas l'intention de l'accompagner. C'était vraiment son ange qu'il avait prévu d'envoyer. Et là, l'Éternel dit, « OK, je t'accorde aussi ce que tu viens de me demander. » Maintenant, on a deux requêtes de Moïse. On arrive à la troisième et à la dernière requête de Moïse. Exode 33, toujours 33, évidemment, verset 18. Là-dessus, Moïse reprit, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Oh. Là, on vient de passer à un autre niveau dans les requêtes. Première requête, « Veuille me faire connaître tes intentions, fais-toi connaître à moi. » Deuxième requête, « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. » Troisième, dernière requête, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Là, on est vraiment passé à un autre niveau. Réponse finale de Dieu, verset 19. Et Dieu lui répondit, « C'est ma bonté tout entière que je veux te montrer. Et je proclamerai devant toi qui je suis. » Waouh, ça c'est un beau message pour nous, son Église, de la part de Dieu. « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. » Ces deux phrases-là font écho à Romains 9, verset 15, quand il est dit, « Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui il me plaira de faire miséricorde, et j'aurai pitié de qui il me plaira d'avoir pitié. » La requête de Moïse pour son peuple est une requête de grâce. Il est en train de dire à Dieu, « J'ai besoin de ta grâce pour accomplir tes intentions. J'ai besoin de ta grâce pour entrer dans tes projets. J'ai besoin de ta grâce pour entrer dans l'appel que tu me donnes, dans la mission que tu me confies. J'ai besoin de ta grâce. » Il dit, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Dieu va dire, c'est toute ma bonté que tu vas voir, je ferai grâce à qui je veux faire grâce. On a besoin de comprendre quelque chose. Je vous rappelle qu'on vient de passer à un autre niveau, à ce moment-ci de ce dialogue entre Dieu et Moïse. Ici, on commence à rentrer dans un contraste entre le divin et l'humain, entre la sainteté de Dieu et l'impureté de l'homme, entre la volonté souveraine de Dieu et nos désirs personnels légitimes. Je ne parle même pas de désirs capricieux, je parle de désirs légitimes, personnels. Et Dieu est en train de lui dire, je ferai grâce à qui je veux faire grâce. Il est en train de dire, je suis Dieu, je vais t'accorder ce que tu me demandes, mais ça va être à ma façon. On pourrait quasiment lire entre les lignes, en passant, on pourrait quasiment lire, c'est comme s'il disait, en passant, je ne suis pas obligé, j'accorderai grâce à qui j'accorde grâce, miséricorde à qui je veux faire miséricorde. Il est en train de dire, je ne suis même pas obligé de t'accorder ma grâce. Parce que je suis un Dieu saint. Je n'ai rien à voir avec toi. Il n'y a rien entre toi et moi qui puisse être en comparaison, en association. On parle beaucoup de la grâce et de l'amour de Dieu et je vais déclarer quelque chose volontairement pour choquer. Pour montrer à quel point dans nos cœurs il suffirait pour beaucoup d'entre nous, peut-être pas tous, mais pour beaucoup d'entre nous, et je fais partie de ces beaucoup d'entre nous, peut-être que je suis tout seul dans cette salle, alors ça sera la confession d'un pasteur ce matin. Mais pour beaucoup d'entre nous, il suffirait de pas grand-chose pour que nous considérions ou au moins commencions à envisager la pensée que Dieu est un Dieu dur et injuste. La déclaration choquante volontaire que je fais, c'est celle-ci. Même si Dieu envoyait une personne en enfer, même si Dieu envoyait une personne en enfer, puis en passant, ce n'est pas Dieu qui nous envoie en enfer, hein, précision, il n'en serait pas moins juste et saint. Même si Dieu disait, je ne ferai rien pour épargner telle personne ou tel groupe de personnes de l'enfer, ça n'enlèverait même pas une once, un gramme de sa justice et de sa sainteté. Pourquoi? Moi, je ne sais pas pour vous, mais cette réflexion-là, je vous partage le fruit de mes propres réflexions ce matin. Ça m'a choqué quand cette réflexion-là m'a traversé la tête. Je dis, wow, mais quand même, Seigneur, c'est dur, c'est pas juste. Voyons. Je ne te dois rien, Philippe. Je fais grâce à qui je veux faire grâce. Je te dois absolument rien du tout. Du tout. La méchanceté a besoin d'être punie. Et les mêmes personnes qui vont se riger en disant, ouais, Dieu, quand même. Sont les mêmes personnes qui vont se manifester dans la rue, faire des pétitions pour crier, réclamer justice sur un abus, par exemple, de leurs enfants ou quelque chose qui n'a pas été réglé. Sur Terre, pour faire simple, on réclame justice et des fois, on imagine que dans le ciel, il n'y a pas de justice. Ou pourquoi il devrait y en avoir une? C'est pas juste, c'est méchant. Dieu est méchant. Non. Exode 33, 20, on va arriver maintenant dans un autre aspect, le verset 20. Donc, il précise, à ma façon, je fais grâce à qui je ferai grâce. Mais, verset 20, tu ne pourras, donc il vient de dire, hein, je vais te montrer toute ma bonté tout entière. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. Et là, il arrive, il y a des instructions précises de la part de Dieu, verset 21. L'Éternel dit encore, il y a ici un lieu tout près de moi, tiens-toi debout sur le rocher. Tiens-toi debout sur le rocher. Verset 22, « Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. » Il y a ici un appel à se lever pour voir Dieu. Tiens-toi ici, près de moi. Près de moi, il y a un rocher. Tiens-toi debout sur ce rocher. Il y a un appel à se lever pour voir Dieu en prenant appui sur Jésus-Christ, le rocher spirituel des siècles. Parce que ce rocher est une préfiguration de Jésus-Christ. Le rocher d'Horeb, on est dans la région d'Horeb. Le rocher d'Horeb est une préfiguration de Christ. On le voit dans Ésaïe 26, verset 4. Il est le rocher des siècles. 1 Corinthiens, Nouveau Testament, chapitre 10, verset 4. Il est un rocher spirituel. Christ est notre rocher. Et le creux du rocher est une... Et il dit, tiens-toi debout et quand je vais passer, je vais te mettre dans le creux du rocher. Et ce creux du rocher est une image du Sauveur qui était frappé, crucifié, blessé à mort. Il dit, tiens-toi debout. Et quand je vais passer, mets-toi dans le creux de ce rocher. Mets-toi dans le creux de mon salut. Si on se transporte cette fois-ci dans le Nouveau Testament, la bonne nouvelle avec nous aujourd'hui, c'est qu'on a la fin de l'histoire. On a le début et la fin. On sait à quoi ça fait allusion. Mets-toi dans le creux du rocher, duquel ton salut va venir, de l'intérieur duquel tu vas avoir le salut. Et on pense qu'il y avait cette montagne et une sorte de porte, une ouverture dans la grotte, dans ce rocher-là. Et ce rocher, ce creux du rocher, c'est Christ qui a été frappé à la croix. Ce rocher spirituel a été frappé de telle façon à ce qu'il est transpercé. Il y a une porte qui s'ouvre. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et c'est en lui que nous pouvons nous tenir debout et prendre appui. Tiens-toi debout sur le rocher. Lève-toi en Christ, en langage du Nouveau Testament. Lève-toi en Christ, en prenant appui sur le rocher. Puis je retirerai ma main et tu me verras de dos. Wow, parce que personne ne peut voir ma face. Je nous invite à nous tenir dans debout sur le rocher et dans le creux du rocher. C'est le message pour nous aujourd'hui, c'est que Jésus, Dieu veut passer sur notre vie encore une fois, encore et encore et jour après jour. Il dit, je veux passer sur ta vie, mais cache-toi en Jésus, cache-toi en lui, cache-toi dans son salut, appuie-toi sur le rocher, parce que par mes propres forces, je ne peux pas voir la face de Dieu. Par mes propres moyens, par mes propres stratégies, par mes propres intentions, il est impossible que je puisse voir Dieu. Voir Dieu face à face reviendrait à être désintégré. Il y a un contraste entre l'humain et la sainteté de Dieu. Et Dieu n'est pas juste éblouissant parce que, waouh, je ne peux pas le voir. Ce matin, il faisait super, il fait encore d'ailleurs super beau. Avant de venir, je me tenais dehors, puis beau soleil, il fait froid un peu, je regarde le soleil, puis évidemment, je pensais à mon message, je me dis, ah, je vais essayer quand même, ça tombe bien, c'est une belle journée ensoleillée, je vais essayer de fixer le soleil le plus longtemps possible. J'ai pas calculé combien, mais c'est à peine quelques secondes et pendant d'autres secondes, j'ai plus rien vu du tout. Je ne peux pas, nous ne pouvons pas voir Dieu face à face. La seule chose que nous pouvons voir de lui, c'est son dos. Et Dieu, j'aimerais dire, c'est pas qu'on peut pas le voir face à face parce qu'il est trop éblouissant, comme waouh, le soleil m'éblouit. Non, non, on ne peut pas voir Dieu face à face, surtout parce que c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus du fait qu'il est éblouissant, il est trop puissant, il est trop saint. Sa perfection contraste tellement avec notre cœur tortueux qu'on ne peut pas subsister dans sa présence. Et Dieu est en train de protéger Moïse des radiations de la splendeur, de sa propre splendeur, la splendeur de Dieu. Dieu, à ce moment-là, il va être couvert, il dit, je vais passer et je vais te couvrir de ma main. Et il y en a qui vont dire, c'est comme justement cette nuée qu'on voyait, je vais te couvrir de ma main, je vais te protéger. Et lorsque j'aurai passé, là, je vais enlever ma main, tu vas pouvoir me voir. Mais pendant qu'il passe, tu pourras pas. Et en fait, cette main, cette gloire de Dieu, c'est comme le masque du soudeur qui lui permet de ne pas devenir aveugle par la soudure de l'arc. Vous savez, ces masques, hein? Tu ne peux pas regarder la soudure de l'arc comme ça. Il faut que tu aies une protection. Et Dieu est en train de mettre une protection sur les yeux de Moïse. Dieu est en train de mettre sa main. Cette main est comme le vêtement d'amiante qui protégerait quelqu'un d'une chaleur intense. Il est en train de protéger Moïse. Et en Christ, le Père nous révèle sa gloire, sa grâce, sa bonté. Et l'expérience de Moïse face au dos, si je reviens un peu en arrière, lorsqu'il dit, moi ce que je veux, c'est que tu viennes avec moi. Moïse est plus concerné par ce que Dieu pense, par les intentions que par ses propres projets. Moïse est en train de dire pour nous aujourd'hui qu'il vaut mieux une mauvaise année avec Dieu qu'une bonne année sans Dieu. Peu importe le péril, peu importe mes adversaires, peu importe ce qui sera devant, même si c'est difficile, moi ce que je préfère, ce soit difficile, mais t'es avec moi, que d'avoir un petit long fleuve tranquille, ça va bien, les pâquerettes poussent partout, mais t'es pas là. C'est ça que Moïse demande à Dieu. Donc, l'expérience de Moïse avec le dos de Dieu est en train de nous révéler un Dieu qui est saint, glorieux, puissant, bon. Et le dos de Dieu, c'est le bon côté de Dieu. Il s'agit de la manifestation complète et absolue de toute sa bonté. Réponse finale de Dieu, je reviens en arrière au verset 19. Et Dieu lui répondit, c'est ma bonté tout entière que je veux te montrer. Et le sens de bonté dans l'Ancien Testament, c'est toute cette dimension de bienveillance de Dieu, de gracieuseté, de générosité, de toutes sortes de biens excellents. La bonté de Dieu est un des aspects de la gloire de Dieu, mais ce n'est pas le seul. D'une certaine façon, Dieu ressemble à une monnaie à deux faces. Et c'est comme s'il disait, à chaque fois, tu sais, vous savez, des fois, on fait ça pile ou face. Là, il y en a qui se disent, là, il va finir dans 45 minutes, pile ou face. Il va bientôt terminer son message, pile ou face. Et en fait, d'une certaine façon, c'est comme si Dieu est en train de dire, voilà, je suis comme une pièce de monnaie, et chaque fois, comprenez, c'est une image, hein, chaque fois que tu vas la lancer, je vais m'organiser pour que je tombe sur pile plutôt que la face. Vous avez compris le concept, pile qui est le dos de Dieu. À chaque fois que tu vas lancer, la seule chose que tu vas avoir de moi, c'est pile, c'est mon dos. Parce que c'est la seule chose que tu peux supporter. Tu ne peux pas encore voir ma face. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore dans l'éternité. On n'est pas encore dans l'éternité. Et d'une certaine façon, si on revient au verset 5 du même chapitre 33 d'Exode, d'une certaine façon, en refusant, lorsqu'il dit « je ne marcherai pas avec vous, parce que si je marchais un instant avec vous, je vous détruirai. » D'une certaine façon, Dieu est déjà en train de leur tourner le dos. Voyez-vous le commentaire quand même dit, vas-y, mais j'irai pas, parce que si j'y vais, je pourrai pas. Je vais être confronté à un choix où je vais devoir vous exterminer. Donc, d'une certaine façon, Dieu fait ça, il tourne le dos. Il dit non, allez-y, mais j'irai pas avec vous. Donc, en tournant le dos, Dieu est en train de dire, je vous accorde ma bonté. Je vous fais grâce. Parce que je veux pas aller là. Parce que je vous aime. On parle beaucoup de la grâce et l'amour de Dieu, mais on a besoin de réaliser que notre Dieu est un Dieu saint. On retrouve dans Romains chapitre 11, dans un autre contexte, mais on retrouve un peu cette image où l'apôtre Paul va dire, au verset 22, Romains 11, 22, « Considère donc à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, bonté à ton égard aussi longtemps que tu t'attaches à cette bonté. » Attachons-nous à cette bonté de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'une personne, parfois, selon qui, ce n'est pas tout le monde, mais il y a des personnes qui, on va être effrayé, intimidé, c'est quand on la voit face à face. Si je prends un autre exemple plutôt négatif, la mariée, c'est un exemple positif, mais il y a des gens, mais ce qui fait que tu vas être impressionné, c'est son regard, c'est son expression de visage, c'est le ton de sa voix, c'est quand tu fais face à quelqu'un, c'est là tu sens la menace de éventuelle. Et Dieu dit, je ne veux pas que tu voyes mon visage. Et on ne peut pas saisir le portrait de Dieu si on n'a pas saisi son dos, la bonté de Dieu, comme je viens de le mentionner, l'ampleur de sa majesté, de sa sainteté. Dieu est Dieu, il n'est pas un guignol. Dieu n'est pas une bonne idée. Dieu n'est pas une bonne valeur. Il n'est pas un bon principe. Il n'est pas une personne parmi tant d'autres. Il est le créateur des cieux et de la terre et de notre propre vie. Et le seul moment où nous allons le voir face à face, Apocalypse 22, je ne lis pas complet, au verset 4, « Ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. » C'est le seul moment où on être affranchi complètement dans la gloire de Dieu. Et je veux terminer ceci. Comprenons bien ceci. Il n'existe pas deux versions de Dieu. Une version de Dieu, du Dieu méchant, négatif de l'Ancien Testament, une version bonne, positive du Nouveau Testament, non. Dans l'Ancien Testament, on voit déjà la grâce de Dieu, de la même façon qu'on voit la sévérité de Dieu dans le Nouveau, et vice-versa. Aujourd'hui, je peux regarder Dieu en face, de certaines façons, parce que Jésus devient le masque du soudeur dont j'ai besoin. Parce que Jésus devient ce vêtement d'amiante, ce rocher protecteur. C'est pour ça que je peux m'approcher de Dieu à travers Christ avec une pleine assurance. Et lorsqu'on contemple la croix de Christ, on contemple la sévérité de Dieu. Parce que lorsque je contemple la croix de Christ, je vois mon Sauveur en train de saigner, d'agoniser, de souffrir. En bref, il est en train de subir la colère de Dieu à ma place. À ma place. Et souvent, quand on veut protéger quelqu'un, le réflexe, c'est quoi? Si par exemple, vous êtes la menace, je protège les miens, je fais comme ça, je montre mon dos. Et d'une certaine façon, c'est ce que Jésus a fait. Il va montrer son dos, il va être lacéré par ses cordes de fouet avec des osselets qui vont déchirer sa peau. Il montre son dos et il va le faire. Mais d'un autre côté, d'une certaine façon, eh bien, nous sommes derrière, pas Moïse, mais cette fois-ci, mais Jésus fait face à la réalité, à nos péchés, à la méchanceté du cœur de l'homme, face à face. Il fait face à la colère de Dieu qui devait être sur nous. Il ne tourne même pas le visage à la colère de Dieu qui devait tomber sur nous. Il fait même pas les yeux. Ah non, 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 il est là. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la colère de Dieu s'abat sur son propre fils, afin que je puisse être épargné. Et là, on a un portrait complet de Dieu à travers Jésus à la croix. La bonté et la sévérité de Dieu. La sévérité de Dieu qui s'abat sur Christ et la bonté de Dieu qui se manifeste à travers la grâce et le pardon de Christ. Moi, je sais pas pour vous, je vous en parle et ça me saisit comme si c'est la première fois que je réalisais cette parole biblique où Jésus est venu me sauver. Et j'aimerais nous inviter à voir notre propre Horeb. Rappelons-nous, nous sommes dans ce lieu d'Horeb. Et Horeb est le lieu de la rencontre entre Dieu et son peuple. Et c'est le lieu où Moïse a eu vécu l'expérience du buisson ardent. C'est le lieu Horeb où le rocher a été frappé pour faire jaillir des eaux. C'est le lieu où il va recevoir les 10 commandements. C'est le lieu où les Israélites, au verset 6 de notre chapitre, vont se dépouiller de leurs impuretés, de leur parure. Et enfin, c'est le lieu où Élie a été rencontré par Dieu suite à sa dépression. Tout ça, c'est dans le mont Horeb. Et dans ce mont Horeb-là, qui est une préfiguration de Christ, il faut que je me retienne parce que c'est comme si, c'est trop vrai. Et Jésus, si on pense à Élie, il est ma consolation alors que je traverse des moments de désolation et de dépression. Jésus, si je pense à Israël qui s'est dépouillé de ses impuretés, Jésus est ma sanctification. Je ne peux rien faire par moi-même. Et si je pense à Moïse, Jésus est il a accompli cette loi que je ne pouvais pas accomplir par moi-même. Il ne l'a pas abolie, il l'a accompli. Et Jésus est cette, si on pense au rocher frappé, Jésus est cette source d'eau vive qui désaltère mon âme. Peu importe les circonstances et les époques et les pandémies, les épidémies, Jésus est ta source d'eau vive en tout temps. Et enfin, Jésus est ce lieu, ce buisson ardent où il se tient, dit « Je suis, ôte-toi, ôte tes sandales, ce lieu sur lequel tu te tiens, t'es un lieu saint, un lieu à part, un lieu où je veux te bénir, un lieu où je veux t'appeler, un lieu où je veux te relâcher. » C'est ce mont Horeb. Et le dos de Dieu est suffisant pour relever ton visage de la honte, du péché et de la condamnation à mort. La seule ombre de Dieu, je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui, mais la simple ombre de Dieu est en mesure de chasser tes pires ténèbres. Voir dos de Dieu, c'est la preuve qu'il accepte que je le suive. C'est plus un ange, là. Là, c'est Dieu lui-même qui va marcher en avant et Moïse va le suivre. La prière de Moïse n'était pas « Suis-moi dans mes projets, bénis-moi ». La prière de Moïse était « Passe devant moi, car c'est toi que je veux suivre ». Bonté de Dieu. Alors que Dieu marche, je peux marcher dans son ombre de bénédiction, son ombre de grâce, dans l'ombre de son pardon, dans l'ombre de sa restauration, jour après jour. Que le Seigneur puisse nous encourager à travers, j'espère, à travers ce texte-là, à travers que le dos de Dieu soit ce que nous voyons jour après jour. Alors oui, on veut voir sa face, vous avez compris. Mais que le dos de Dieu soit ce que mes yeux voient tout le temps. Qu'il soit mon influenceur, qu'il soit mon guide, qu'il soit mon berger, qu'il soit ton tout jour après jour, avec ou sans confinement, avec ou sans vaccin. C'est le dos de Dieu que je veux suivre. C'est dans ses empreintes que je veux poser mes pieds et je veux faire de Jésus mon Horeb. Que demain, mardi, mercredi, jeudi, je puisse aller à la rencontre de ce Jésus. Ce Horeb pour moi aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.
Merci Philippe pour ce message. Je vous invite à prendre quelques moments de silence. Et après quelques minutes, vous pouvez vous exprimer librement à haute voix pour prier. Et je terminerai par la prière.
passe devant nous dans tous nos projets, Seigneur, que toi, tu sois présent. Que ce ne soit pas des projets humains, mais sois présent, Seigneur Jésus. Passe devant nous, que nous puissions suivre tes pas. Amen.
Seigneur, merci de faire descendre les paroles que nous avons entendues dans nos cœurs. Veuille travailler nos cœurs et que nous puissions méditer tout ça tout au long de la semaine qui vient et que nous puissions te mettre à la première place, Seigneur Jésus. Que notre priorité soit toi et seulement toi et pas tous nos soucis ou tous nos projets, mais que tu sois vraiment le centre de nos vies. Que ton Saint-Esprit travaille nos cœurs pour accueillir ce que tu as en réserve pour nous. Seigneur, ta majesté remplit ce lieu. Nous venons au pied de ton trône pour nous laisser toucher par toi, remplir de ton amour, de ta paix et de ta joie. Amen. Avant de terminer ce moment de culte, nous aimerions vous laisser quelques encouragements tirés de la parole de Dieu. Quand je dis, je suis lasse et fatigué.
Dieu dit, je te donnerai du repos.
Quand je dis, je ne sais pas dans quelle direction aller.
Dieu dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi.
Quand je dis, je ne vaux rien.
Dieu dit, tu as du prix à mes yeux.
Quand je dis, personne ne m'aime.
Dieu dit, moi je t'aime.
Quand je dis, je n'en peux plus.
Dieu dit, ma grâce te suffit.
Quand je dis, je n'y arrive pas.
Dieu dit, je te fortifie.
Quand je dis, je ne suis pas capable.
Dieu dit, je te rends capable.
Quand je dis, je ne peux pas me pardonner.
Dieu dit, je te pardonne.
Quand je dis, j'ai peur.
Dieu dit, je viens à ton secours.
Quand je dis, je me fais de soucis.
Dieu dit, décharge-toi sur moi. Je vous invite à vous lever pour le mot de la bénédiction. Et comment ne pas terminer cette matinée alors que nous avons vu le dos de Dieu? Comment ne pas la terminer avec les quatre premiers versets du psaume 91? Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Il te couvrira de ses ailes, comme il a couvert Moïse de sa main et comme il nous couvre de l'œuvre de Christ à la croix. Dieu ne nous doit rien et pourtant, il nous donne tout. Bonne semaine à tous.
Encore quelques annonces avant que vous partiez. Ce jeudi soir, nous avons la rencontre du conseil. Pensez bien à nous et priez pour le conseil. Ensuite, vendredi, 26 mars, le colloque qui sera en ligne. Vous recevrez les indications cette semaine par mail. Dimanche prochain, la reprise du thème de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4, avec le mardi qui suit l'atelier biblique sur la suite de ce thème. Et puis le culte de Pâques qui sera certainement avec la scène. Il y a un protocole qui est en place pour pouvoir prendre la scène lors du culte de Pâques. Et puis encore une annonce concernant la vie de l'Église. Comme vous le savez, l'Église fonctionne principalement grâce à vos dons. Vous pouvez faire soit par une offrande dans le panier qui est derrière, soit par Twin, soit par CCP, mais aussi par vos services que vous rendez à l'Église, que ce soit pour la technique, pour ceux qui mettent en place le chauffage, pour que ça soit tempéré le matin, que ce soit pour la musique, la présidence, ou pour être moniteur pour les enfants. Toute l'Église fonctionne par ce bénévolat, et aussi pour le nettoyage de nos locaux. Donc, on est à la recherche de personnes pour venir renforcer des équipes. Donc, on vous encourage à vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire auprès de Claire-Lise Serex, ou si vous ne connaissez pas son adresse ou son téléphone, via le conseil ou un pasteur, et on vous redirigera. Merci beaucoup et bonne semaine.